au niveau peut-être même de ce que vous entendez à la télévision ou vous lisez dans les journaux. On parle beaucoup d'apocalypse, de jour de la fin, de dernier temps, surtout avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie. Et j'aimerais ce matin que nous puissions voir un texte de la Bible qui se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Donc un texte qui est qui date des années 66 après Jésus-Christ, donc c'est pas un texte récent, et c'est un texte qui va nous amener à réfléchir à ce que sont les derniers jours. Et voilà donc ce que Paul dit. C'est la dernière lettre de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. C'est d'ailleurs la dernière lettre de l'apôtre Paul. Ensuite, il va mourir martyr à Rome. Paul est en prison à Rome. Il a très peu de chances d'être libéré. Il ne sortira d'ailleurs de la prison que pour être décapité par le glaive. Et on sait aujourd'hui que cela s'est passé un peu à l'extérieur de la ville, sur la Via Laurentina. S'il n'avait pas été citoyen romain, Paul aurait été livré en spectacle aux foules, sans doute dans un cirque, avec des fauves ou avec toutes sortes d'épreuves, ou crucifié ou dévoré par les fauves. Et donc, cette deuxième lettre est véritablement un testament que l'apôtre Paul nous livre, et ça vaut la peine justement de regarder cet ultime message de l'apôtre, du vieil apôtre, à son fils spirituel, à son collaborateur. C'est à la fois poignant, c'est à la fois pertinent, c'est à la fois, je pense, le cœur ouvert d'un père spirituel vis-à-vis de son fils. Et il me semble que ce chapitre a beaucoup de choses à nous dire, surtout dans la situation dans laquelle nous vivons en ce moment même, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe en Corée du Nord, où semble-t-il il y aurait encore des essais atomiques, ou ce qui vient de se passer, j'ai pas retenu le nom du pays ce matin, mais il y a eu de nouveau un coup d'État au Burkina Faso, voilà, donc de nouveau, et puis le monde est un petit peu en ébullition. Et voilà ce que nous lisons, chapitre 3, verset 1er. « Sache, » donc il s'adresse à Timothée, « que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre mais qui ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jamnès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme a été celle de ces deux hommes. De ton côté, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant que tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui ne peuvent te rendre sage en vue du en vue du salut de la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et équipé à toute bonne œuvre. Voilà un texte que nous pourrions mettre dans les journaux télévisés ou dans les journaux écrits, avec tout ce que nous lisons, la liste de tous ces soucis qu'il y a, amis de l'argent, égoïste, vantard, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que le texte de Paul à Timothée, qui date donc de 66-67 après Jésus-Christ, est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, vous pensez que y a un terme qui dit, voilà, dans les derniers jours. Paul l'écrivait en 66-67 après Jésus-Christ. Nous sommes en 2021 et nous sommes encore dans les derniers jours. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent, j'ai lu un article dernièrement, que d'un pseudo-scientifique, philosophe ou je ne sais trop quoi, qui dit « Nous allons en tant qu'humanité vers l'âge d'or, où un jour il n'y aura plus de guerre, plus de problèmes, tous les hommes seront égaux, et tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Alors, je suis pas convaincu que ce monsieur soit bien conscient de ce qui se passe en ce moment, ou de ce qui s'est passé déjà dans l'histoire, et hélas, ce qui risque de se passer plus tard. Mais Paul pensait déjà vivre les derniers jours de l'humanité. Et je pense que, alors, soit il s'est trompé, et il s'est trompé de 19 ou 20 siècles, soit alors il a raison. Mais il me semble que cette même expression, qui revient d'ailleurs à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans l'Écriture, désigne la dernière phase de l'histoire humaine, inaugurée pour moi par le Christ. C'est-à-dire que lors de la venue de Jésus, à ce Noël, où pour la première fois le Fils de l'homme a fait apparition sur la terre, eh bien il me semble que c'est le début de la fin, si j'ose dire. C'est pas la fin, mais c'est le début de la fin. Et voilà que petit à petit, nous nous dirigeons vers une fin qui est sans doute inévitable, qui est inévitable pour nous. Et la Bible du Semeur traduit « dans la dernière période de l'histoire ». Vous savez qu'il y a beaucoup de gens tout au long de l'histoire qui ont essayé de dire, voilà, qui ont même fixé des dates en disant la fin du monde sera pour, à l'arrivée proche de l'an 1000 après Jésus-Christ, bon nombre de gens pensaient que ça y est, le fait de passer à l'an 1000, ça allait être la fin du monde. On a nous-mêmes vécu ça, enfin je sais pas si vous vous rappelez, du passage en l'an 2000. On parlait d'un bug informatique absolument gigantesque, on parlait de la fin du monde, et puis ben maintenant on est 22 ans plus tard et c'est toujours pas arrivé. Mais quand Jésus est venu, le peuple juif qui attendait le Messie d'Israël, qui attendait justement ces derniers jours inaugurés par le Messie d'Israël, une ère de paix, une ère de prospérité, une ère de piété, où tous les peuples païens allaient se convertir et se rallier à Israël. C'est marqué dans les prophètes de l'Ancien Testament. Le juif passera à côté de l'Égyptien ou du Mésopotamien ou de l'Assyrien et ils adoreront le même Dieu. Ça allait être l'âge d'or. Et ils étaient nombreux, d'ailleurs, à l'époque où Jésus est arrivé, quand il a commencé son ministère, à penser que ce Jésus allait être celui qui allait amener cet âge d'or. D'ailleurs, vous rappelez, lorsque Jésus monte à Jérusalem, sur cet anon et que l'on met les vêtements, que l'on met les feuilles de palme, les fleurs, les feuilles de palme, oui, sur le sol, hein, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le peuple juif se disait, ça y est, on va enfin être libéré, et bien sûr libéré du joug des Romains qui s'appesantissaient en Israël. Mais Jésus est mort. Où était donc passé le Messie? C'était pas encore l'âge d'or. Mais ce qui est merveilleux, c'est que très rapidement, il est ressuscité. Et justement, nous sommes dans cette période de la fin des temps où nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, où nous ne savons pas justement le jour où tout va s'arrêter, mais où nous savons en tout cas une chose, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont se tourner vers Dieu au fur et à mesure. Et depuis la mort de Jésus et sa résurrection, combien de milliards de gens se sont tournés vers lui? Et en plus, que petit à petit, l'opposition contre les chrétiens allait de plus en plus durement Il y a eu d'abord les persécutions à l'époque romaine, et quand Paul écrit, Néron a été empereur, et nous savons que Néron n'a pas été un empereur très sympathique vis-à-vis des chrétiens, loin de là. Et donc, Jésus était réellement le Messie. Il était vraiment venu de Dieu, il était vraiment le prince de la vie, il était vraiment le Seigneur de tous, et les disciples étaient tellement bouleversés par cela qu'ils étaient prêts à mourir pour cela. Rappelez-vous, lorsque Pierre et Jean sont amenés devant le Sanhédrin après avoir guéri cet homme qui était là à la porte du temple, on leur interdit de parler de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, et nous avons l'apôtre Pierre qui a été d'abord à la Pentecôte et puis ensuite dans différents endroits, puis Philippe qui a été à Samarie, puis Paul qui a été vers les païens, puis Pierre aussi a ouvert la porte à Corneille pour l'évangile. Et ces disciples-là étaient prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ. Et l'évangile a gagné tout l'Empire romain et au-delà des frontières et tout au long de l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Évangile gagne du terrain de plus en plus. Et au début, quelque chose de leur ancien espoir à ces chrétiens était devenu vrai. Mais Jésus a pu dire aussi, avant de repartir auprès de ses disciples, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et donc les trois premiers évangiles nous présentent de longs discours de Jésus sur la fin des temps. Il y aura des guerres, des tremblements de terre, j'oserais dire, si le mot existait à l'époque, des tsunamis, des cyclones. Et là, il suffit d'ouvrir la télévision, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en Amérique du Nord, c'est quelque chose de terrible. Et nous avons vu le tsunami il y a quelques années et d'autres choses avec ces orages qui ont fait périr des gens, etc. etc. Et donc, la condition générale, c'est que le monde va aller de mal en pis. Et Paul ici résume pas l'état du monde dans sa création, mais l'état des hommes qui composent le monde. Et vous avez remarqué que la liste n'est pas très sympathique à lire. Hein, quand on voit égoïste, ami de l'argent, vantard, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, c'est ce qu'on vit tous les jours lorsque l'on ouvre la radio, lorsque l'on allume la télévision ou lorsque l'on lit les journaux, tout ce qui se passe actuellement. Et surprise, il a annoncé que les derniers jours ne seraient pas un âge d'or, mais au contraire seraient une période de trouble de plus en plus. C'est-à-dire que quand nous voyons ce qui se passe, guerre en Ukraine, ce qui se passe avec la persécution des chrétiens dans un certain nombre de pays, ce qui se passe avec toutes sortes de choses, ne soyons pas surpris, mais le jour approche où le Seigneur va revenir. Alors, ne me demandez pas quand, parce que ce n'est pas à nous de le dire. Mais il y avait déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, des faux prophètes, des faux messies, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des faux prophètes. Paul a sans cesse été suivi par des gens qui disait à ces chrétiens qui s'étaient tournés vers le Seigneur, revenez au principe du judaïsme. Et puis, à Rome, à Athènes, quand il est là et qu'il parle à la suite du fait qu'il avait vu une stèle à un dieu inconnu, on veut bien l'entendre jusqu'à un certain point, mais après, c'est fini. Et nous voyons qu'il a été lapidé. Et d'ailleurs, il le dit à Timothée, j'ai subi des persécutions. Il a été lapidé, il a été mis en prison, etc., etc. Des faux messies, il y en avait. Même avant, lorsque l'on a interdit aux deux disciples de prononcer le nom de Jésus-Christ et de prêcher Jésus, c'est un des membres du Sanhédrin qui va dire « Mais rappelez-vous, il y a eu un tel qui s'est présenté, 400 hommes l'ont suivi, et puis après, plus rien. » Et un autre. Et il va dire au Sanhédrin, donc au chef juif de l'époque, « On ne luttez pas contre Dieu, parce que si la chose vient des hommes, ça va s'effriter. » C'est pas le mot qu'il a utilisé, mais ça va partir de soi-même. Mais si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas lutter. Et nous voyons ce que Jésus dit aux disciples de la première génération. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, va le dire aussi à Timothée. Un âge d'or, détrompe-toi. Ce seront des jours difficiles. Et qu'est-ce qui s'est donné en particulier? Eh bien, toute la perversité de l'humanité. Et j'oserais dire, quand nous regardons ce qui se passe, les différents termes qui sont utilisés pour qualifier les gens, eh bien, on est en plein aujourd'hui dans la même situation que l'apôtre Paul en l'an 66. Et qu'est-ce que Paul va dire ? Ils auront l'apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent ce genre de choses. En fait d'orgueil, que n'a-t-on pas vu dans l'histoire, et dans l'histoire récente, et dernièrement encore, des gens qui se prennent pour le nombril du monde, excusez-moi l'expression, combien nous voyons des gens qui aiment les plaisirs plutôt que Dieu, combien des gens qui sont insensibles, calomniateurs, sans frein, fanfarons, orgueilleux. On pourrait mettre des titres de journaux sur chaque terme que l'apôtre Paul utilise ici. Paul utilise le mot pour homme dans le sens générique du terme, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Tout le monde est là. Et il s'agit de gens irreligieux ou de gens qui semblent être religieux. Parce que vous remarquez, au verset 5, il dit « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Et reconnaissons-le aussi, dans le cadre de l'Église, des Églises, il y a des gens qui se sont présentés comme cela. Combien de fois on a vu, en particulier quand il y a eu ces télévangélistes aux États-Unis ou autres, où ils roulaient dans des Rolls Royce, où ils avaient des avions privés, etc., où ils profitaient des gens, mais pas, ils ne mettaient pas Dieu en avant. Donc des gens avec des traits regrettables, ingrats, impulsifs. Et c'est là notre humanité. Nous vivons dans une humanité déchue. Celle d'hier, c'était les saccages qui ont été faits, c'était la déportation des gens, etc. Mais celle d'aujourd'hui, c'était les marchands d'esclaves aussi. Hein. Rappelez-vous, celui qui a écrit le beau cantique « Grâce infinie, Amazing Grace » était un ancien esclavagiste qui s'est converti lors d'une tempête sur un bateau. Et puis, il y a l'humanité d'aujourd'hui. Encore les trafiquants d'esclaves en Libye ou en Afrique. Les trafiquants de gens qui vont leur dire « Oui, oui, vous pouvez passer en Europe » et qui vont les mettre sur un petit canoë à 50 ou 60 personnes et on ne compte plus les morts chaque jour presque qui se passent. C'est des xénophobes de notre belle époque. C'est des Daesh, des Poutine, la Corée du Nord. C'est le Parti communiste chinois avec ses dictatures, etc., etc. C'est nous tout cela. Et combien de fois les athées nous disent « Non, il faut croire en l'homme. L'homme va aller vers un mieux. » Ils ont la foi en l'homme, pas moi. Et la nuance tout de même, c'est que Paul dit ces choses pour contrer justement l'idée que l'homme va aller vers un âge d'or. Mais sans Dieu. Et sans Dieu, c'est pas possible. À l'origine, Dieu a marqué l'humanité par son empreinte. Rappelez-vous, dans la Genèse, il est dit « Dieu créa l'homme à son image ». Et le problème, c'est que l'homme n'a pas voulu de Dieu. Il y a l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est philosophe, Luc Ferry, qui a dit « L'humanité, c'est comme un bateau. Et Dieu était le capitaine du bateau. Mais les matelots n'ont pas voulu du capitaine. Ils ont jeté le capitaine par-dessus bord et ils ont pris le vêtement du capitaine, mais le vêtement du capitaine est trop grand pour eux. » Alors, c'est une image, bien sûr, qu'il utilise dans un de ses livres, mais je trouve ça très remarquable. Dieu avait prévu que l'homme vive dans la dépendance, dans sa dépendance. Mais les gens ont pensé que vivre dans la dépendance de Dieu, c'était en fin de compte ne pas être heureux, ne pas avoir le bonheur. Et ils ont cherché entre eux, et nous savons ce qu'ils ont trouvé. Des aspirations à la justice, des élans de solidarité, des engagements exemplaires. Oui, il y en a, heureusement encore, parce que ça, c'est le restant de la créature à l'image de Dieu. Et Paul le dira aux Romains, il parle de cet aspect-là, quand il dit que la loi est inscrite dans le cœur des humains, mais hélas, elle est obscurcie aussi par le péché. Et tant qu'on ne revient pas au pied de la croix, tant qu'on ne revient pas pour recevoir la personne même de Jésus-Christ dans son cœur, les choses ne vont pas aller. On a tous été surpris par l'invasion de l'Ukraine au mois de février. C'est à quoi, 1500 km de chez nous, peut-être même moins. C'est en Europe. Alors qu'on pensait, quelque temps auparavant, j'avais entendu la présidente de la Commission européenne dire « Voilà plus de 70 ans que notre pays, que notre Europe est en paix et ça va continuer longtemps. » Ça, c'était au mois de décembre. Et voilà qu'en février, nous savons ce qui s'est passé et nous savons ce qui continue à se passer. Sans parler de toutes ces histoires aussi d'abus sexuels, de choses qui sont absolument abominables au niveau de la moralité. On n'a pas besoin de lire le journal ou de regarder les infos ou de lire sur Internet pour découvrir tout cela, les tremblements de terre, les incendies, le déluge. Il suffit d'ouvrir la Bible. La Bible nous en parle. Et ce sont des désordres qui menacent l'Église. Parce que lorsque Paul utilise le terme « ils auront l'apparence de la piété », semble-t-il, il y a une notion de religiosité derrière. Et combien de fois nous voyons qu'il y a des désordres qui menacent les Églises. Dans le passage là, il y a une transition entre ce que l'on pourrait appeler les désordres de l'humanité et les deux ordres qui menacent particulièrement l'Église, et au verset 5, nous le voyons. Il y aura des personnes qui semblent être religieux, pieux, chrétiens, savoir comment employer le langage de la foi, quel geste visible accomplir, quelle réunion fréquenter, mais au fond, ils rejettent la force de l'Évangile parce qu'ils ne sont pas de l'Évangile. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes. Et aujourd'hui même, dans certaines églises, hélas, il y a des gens qui commettent ce genre de choses. Et le verset 6, mesdames, excusez-moi, mais vous êtes là en première ligne, hein, certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet les femmes crédules, chargées de péchés, entraînées en toutes sortes de désirs. Alors le terme qui est utilisé, c'est pas moi qui l'utilise, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de femmes, il utilise un terme unique là dans l'écriture, c'est le terme de femmelettes. Des femmes sans colonne vertébrale. Ceci étant, permettez-moi de mettre, sans vouloir tronquer trop la Bible, mais de mettre des hommes aussi qui sont des omelettes, qui fondent devant un certain nombre de choses. Mais il y a des gens qui aiment entendre ce genre de choses. Des gens qui aiment entendre que, voilà, bon, tout ira bien, pas de souci. Continue à vivre comme tu veux, le Seigneur t'aime. Mais non, c'est pas possible de ce cas-là. Et donc, il y a cette notion de ces femmes qui étaient si vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'elles manquaient de caractère, parce que les êtres humains manquent de plus en plus de caractère. On veut nous fondre tous dans un même moule, et j'oserais dire, s'il y a une tête qui dépasse, c'est pas bien. La Bible à la colombe utilise certaines femmes, mais le terme est vraiment très très fort dans la parole, dans la bouche de l'apôtre Paul. Hélas, mesdames, mesdemoiselles, et nous-mêmes, messieurs, nous avons besoin de muscler notre caractère. Et comment le faire ? Paul va d'ailleurs donner la solution plus tard et nous allons le voir. Parce que Dieu nous donne des armes pour être fort par rapport à des choses qui peuvent nous déstabiliser jour après jour. La deuxième raison de cette vulnérabilité, me semble-t-il, c'est qu'il est dit que ces femmes sont chargées de péchés et entraînées à toutes sortes de désirs. Et là encore, les hommes sont dans le même cas. Que de gourous aujourd'hui ont du succès auprès des personnes en travaillant sur le sentiment de culpabilité ou sur des problèmes psychologiques ou autres. Et les gourous rencontrent donc ces êtres humains et les entraînent. Et le remède saute à leurs yeux. Venez me voir, souvent donnez-moi de l'argent et je vais régler vos problèmes. Et on assiste de plus en plus à des espèces de médecines pseudo-parallèles, pseudo-spirituelles, absolument affolantes. Nous avions, je ne sais pas si tu te rappelles Pascal, il y a quelques années, le congrès à Vichy, et au moment de le congrès de nos églises, à un moment de détente, on s'était promené avec Anne, avec d'autres amis, et on voyait des gens qui étaient en train d'embrasser des arbres, comme ça, alors plus ou moins grands, hein, et on avait posé la question, c'était pour être en communion avec l'arbre, parce que l'arbre me parle, et l'arbre a quelque chose à me dire. Oui, la nature a quelque chose à nous dire. Mais je ne sais pas, essayez peut-être en rentrant, si vous trouvez un arbre, de vous mettre comme ça pour savoir s'il vous parle. Mais on assiste à des choses absolument aberrantes. Des espèces de gourous et des gens qui y vont. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait dans le sud de la France donc un monsieur qui avait des gens, et c'était des notaires, des médecins, des gens qui avaient de la connaissance et qui étaient là. Et donc, le remède est simple. C'est d'avoir une vie droite, telle que la Bible nous l'enseigne. Et puis la troisième raison de la vulnérabilité, liée à la première, c'est une certaine curiosité des choses sur les nouveautés. Et là, j'oserais dire que nous sommes désavantagés par rapport à Timothée parce que nous, nous avons Internet. Et Internet, vous y trouvez de tout. On y trouve le meilleur, mais on y trouve le pire des pires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens aiment chercher. Et d'ailleurs, vous avez même tout un système, si vous faites une recherche intéressante, eh bien, vous risquez de tomber sur un site pornographique ou autre, parce qu'il y a des chintements qui sont faits avec des mots qui sont retenus. Ça m'est arrivé une fois, je cherchais le Dominus Iesus, le dernier acte de Benoît XVI pour lire le texte. Eh bien, je tape, donc, Vatican, etc., et je tombe sur un site pornographique. C'est pas possible, j'ai dû me tromper, je recommence, etc. Et donc, je vais ailleurs, bien sûr, et puis quand on rentre, je dis, écoute, regarde, j'ai retapé ça, c'est un faux. Et donc, on m'a expliqué qu'il y a des mots qui sont chantés comme ça, et vous croyez aller sur le site X, et en fin de compte, on vous fait aller ailleurs. Et bien sûr, avec l'appât que ça peut procurer ici ou là. Et donc, aimer chercher, c'est bien. Chercher dans l'Écriture, c'est bien. Chercher dans la sagesse de Dieu, c'est bien. Apprendre, c'est bien. Et le remède, je pense, est simple. C'est l'affaire de toute une vie, c'est apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous allons y venir tout à l'heure. Trois vulnérabilités. Instabilité, péché, brouillard intellectuel et trois remèdes. Du caractère, une vie droite et la parole de Dieu. Et un quatrième remède. Bien choisir les personnes à qui nous faisons confiance en fonction de leur caractère, de leur droiture et de leur connaissance de la parole de Dieu. Alors on a parlé des gourous tout à l'heure. Ils sont certainement marqués par nombre de péchés que Paul mentionne là, la mammon, du gain, l'argent, l'orgueil, etc. Ceci étant, c'est pas nouveau. Ils font partie d'une longue tradition d'imposteurs. Relisez l'Écriture et regardez tous ceux qui ont été, entre guillemets, des gourous à quelque part. Il y en a pas mal dans l'Écriture qui sont mentionnés, non seulement dans le Nouveau Testament, mais déjà aussi dans l'Ancien Testament, pour détourner le peuple d'Israël de ce que Dieu voulait pour ce peuple. Rappelez-vous, Moïse s'est trouvé en face de magiciens. Et d'ailleurs, il y a deux noms qui sortent dans le texte que nous avons lu, ce Jannès et ce Jambres. On les trouve ailleurs, pas ailleurs dans l'Écriture. Et il semblerait que ce soit des magiciens de Pharaon qui aient lutté contre Moïse à l'époque où il y avait les fameuses 10 plaies pour que le peuple puisse sortir. Ils pensaient avoir, et ils avaient quelques pouvoirs occultes parce qu'ils ont fait des choses que Moïse a pu faire jusqu'à un certain point. Et les gourous de l'an 66-67 après Jésus-Christ sont les mêmes que les gourous d'aujourd'hui en 2022. Pour continuer à gagner de l'argent, ils maintiennent une certaine influence sur les gens, ils vont manipuler, influencer, écarter les gens de la voie droite. Et le résultat de leur action, c'est qu'ils se substituent moralement à la parole de Dieu. Et le deuxième élément qui apparaît ici, c'est que les gourous ne tiendront pas dans la durée. Je pense à l'un d'eux, qui est devenu, et je ne citerai pas son nom, un apôtre de l'évangile de la prospérité. Lui, il vous dit, si vous êtes véritablement chrétien, vous n'aurez plus jamais de problème d'argent. Dieu va vous bénir. Bon, je ne sais pas si vous avez des soucis de financiers, mais la Bible n'a jamais parlé que le fait de se donner à Dieu va nous remplir les poches de lingots d'or ou je ne sais trop quoi. Sauf qu'un jour, cet homme, et donc il disait aussi qu'il fallait laisser tomber tous les médicaments parce que, pareil, si Dieu, on est vraiment enfant de Dieu, Dieu va nous guérir de toutes nos maladies. Sauf qu'un jour, il est tombé gravement malade. Et bien sûr, il a pu faire appel au médecin. Et rappelez-vous, est-ce que vous connaissez un certain Georges Roux? Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais si je vous parle du Christ de Montfavet, c'est en France, pas très loin d'Avignon. C'était le facteur de la ville de Montfavet qui, un jour, s'est dit « Moi, je suis le Christ ». Et il y a des milliers de personnes qui arrivaient à Montfavet, près d'Avignon, pour voir le Christ. Sauf que il est mort en 1981, et sa fille a voulu reprendre le flambeau, et il y avait à peu près 5000 à 6000 personnes qui venaient le voir jour après jour, quand il était là, et là maintenant, il y a quelques dizaines de personnes. La mort met fin aux impostures. Mais si on regarde l'Évangile, l'Évangile n'a cessé de croître. Les êtres humains n'ont cessé d'accepter Jésus-Christ. Oh, bien sûr, il y en a qui l'ont refusé, mais quand nous voyons cela, si Jésus était véritablement un imposteur, ça voudrait dire qu'il y a des milliards de gens depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui se trompent. Ça voudrait dire que, et pas simplement des gens européens, etc., mais du monde entier. Et l'Évangile a fait un progrès absolument magnifique. Et qu'est-ce que nous voyons ? Paul dira au verset 10 à Timothée, « De ton côté, tu as suivi mon enseignement. » C'est-à-dire que Timothée est appelé par l'apôtre Paul à suivre l'enseignement qui n'est pas nouveau puisqu'il dit « Tu l'as déjà fait dans ton jeune âge. » Et nous savons que Timothée avait sa mère et sa grand-mère, Loïs et Eunice, qui l'avaient enseigné dans la foi chrétienne. Et voilà ce qui va permettre à Timothée de pouvoir tenir bon, l'exemple de Paul. Et Paul ne se définit pas comme un prédicateur absolument merveilleux, etc. Qu'est-ce qu'il se définit ? Ben, il se définit comme, oui, alors tu vas suivre ma patience, ma conduite, mon amour, mais avec les persécutions, avec les souffrances, et il cite des endroits, Antioche, Iconium, Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et puis, Paul va rajouter, en utilisant le même mot qu'il avait utilisé auparavant, ces gens semblent avoir l'apparence de la piété. Au verset 6, voilà qu'il va dire au verset 12, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors attention, ça ne veut pas dire que nous devons rechercher la persécution. Mais quelquefois, je ne sais pas vous, mais il y a des gens qui se moquent de nous parce que nous sommes chrétiens. Ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des voisins, etc. Et puis il y a des gens dans certains pays où la persécution est bel et bien vraie et physique et terrible, hein, quand on sépare des gens de la même famille, etc. Tandis que les hommes méchants et les imposteurs avancent toujours plus dans le mal en espérant que les autres, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Et voilà que Paul va donner à Timothée au verset 14, la règle. Nous vivons les derniers temps, et qu'est-ce que nous devons faire ? Tenir ferme dans ce que tu as appris. C'est-à-dire que nous ne devons pas aller à gauche, à droite, écouter tel ou tel prédicateur, voire même sur Internet, écouter telle ou telle chose, mais rester fidèlement ancré sur le message de la parole de Dieu. Et l'Église est là aussi pour nous aider à tenir dans ce sens. Et puis, Paul va mentionner ce verset que peut-être nous connaissons tous, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et appliqué et équipé à toute bonne œuvre. » Il y a cette notion de l'Écriture qui doit être le centre. Dès que quelqu'un vous dit « Moi, je peux vous expliquer toute l'Écriture », faites attention. Il y a des tas de choses que moi je ne comprends pas dans l'écriture encore. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de choses que je comprends. Et par rapport à ce que je comprends, je devrais le mettre en pratique. Et le problème, c'est qu'on ne met pas en pratique ce que je comprends. Mark Twain disait, c'est pas ce que je ne comprends pas dans l'écriture qui me gêne, c'est ce que je comprends. Et quand il est dit, tu dois demander pardon, tu dois vivre en paix avec ton frère, tu dois aimer ton frère, tu dois avoir cet amour réciproque, tu dois avoir de l'hospitalité, etc., etc. C'est des choses que l'on comprend. N'essayons pas de trouver les choses qui peut-être sont plus compliquées pour un certain temps, mais en tout cas, toute l'écriture, c'est-à-dire que tout le texte que nous avons ici, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous ne devons pas essayer de trouver autre chose. Et donc on voit l'apôtre Paul qui va dire à Timothée, alors qu'il va bientôt mourir, « Reste attaché à ce que tu as appris. » Alors nous allons encore en voir des premières de pages, des messages à la télévision en disant « voilà, telle ou telle catastrophe va arriver, etc. etc. » Mais nous devons rester fidèles à la parole de Dieu, parce qu'effectivement, il y aura des choses qui vont se passer de plus en plus dramatiques. Et on peut avoir deux situations. Soit on peut avoir la situation d'être complètement démoralisé, d'être complètement perdu, ou avoir la situation, au contraire, de vivre avec le Seigneur. Et j'aimerais faire une allusion à un homme de l'Ancien Testament qui vivait une période dramatique, puisque c'est la période où le peuple d'Israël, la nation d'Israël, a été déportée à Babylone. Et c'est Jérémie, dans ses Lamentations, qui va nous dire quelque chose comme ça. Écoutez, chapitre 3. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, Il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer le secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc. Il m'a dressé comme cible par ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour mon peuple un objet de moquerie. À longueur du jour, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. On pourrait dire, on pourrait tomber dans ce travers-là. Du défaitisme. Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand vas-tu permettre l'horreur que peut-être certains vivent, la maladie par laquelle certains passent, la souffrance de certains, le départ d'être cher dans la mort. Et on se dit, là, Jérémie, mais tu déprimes complètement. Et il faut reconnaître que c'était pas évident. La ville de Jérusalem était encerclée par les Babyloniens. Nebuchadnezzar, le roi, allait la détruire et il allait emporter les gens en déportation à Babylone, à 1500 kilomètres de Jérusalem, pour ne plus y revenir. Et voilà, la suite est quand même magnifique. Souviens-toi de ma détresse, verset 19, et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Et vous savez que l'absinthe, c'était ce fameux alcool, on disait l'alcool des fous, ou souvent il y a un certain nombre d'écrivains ou de peintres qui, au 19e siècle, sont morts carrément de folie à cause de l'absinthe. On recommence à commercialiser maintenant, mais pas du tout avec les mêmes doses. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Mais voilà. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Face à la situation que l'apôtre Paul connaît, où il est en prison, où il va bientôt mourir, où il avertit Timothée en disant « Fais attention, sépare-toi de tous ces gens qui sont affreux et qui sont méchants », eh bien, Paul aurait eu de quoi aussi être désespéré, comme Jérémie a pu l'être. Et voilà que Paul, sans doute, devait se rappeler aussi ces paroles de Jérémie. « Je veux méditer, garder espoir. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est beau. Et ça doit nous donner du courage. Ça n'évite pas aux chrétiens les soucis, les problèmes, etc., etc., mais ça nous ramène toujours plus proche de Dieu. L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. On pourrait traduire l'Éternel est mon bien par l'expression l'Éternel est mon héritage. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de Dieu. Et en tant que tels, nous ne devons pas abandonner la vie dans laquelle nous sommes. Alors certes, notre monde s'écroule de plus en plus, au niveau climatique, au niveau des guerres, au niveau des finances, au niveau de la morale, mais nous devons tenir ferme en Dieu qui nous prépare l'âge d'or avec Jésus-Christ, et il va exister cet âge d'or. Au retour de notre bien-aimé Sauveur, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, ni grincement de dents. Il n'y aura plus de nuit, ni de soleil, parce qu'il sera auprès de nous et la ville sera éclairée par le Seigneur Jésus. Alors, si vous êtes rentré dans cette salle découragé à cause de la situation et du monde dans lequel on vit, ressortez, je l'espère, avec cette expression « Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Paul, à la fin de ce texte, je ne sais combien de temps après, mais a été décapité. Il est mort. Timothée a continué. Il était responsable de l'église d'Éphèse. Et nous savons que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis, ils ont passé le relais à d'autres. qui ont passé le relais à d'autres, etc., etc., jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous recevions aussi le relais de l'Évangile et nous avons besoin de continuer à le proclamer. Alors, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Il y a de l'espérance, alors que nous puissions repartir avec cette espérance que donne le Seigneur. Et Paul dira un peu plus loin dans le texte, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Comme si c'était, entre guillemets, le summum de sa situation, alors qu'il allait mourir, et que nous puissions vraiment avoir la même attitude que lui. Je vous invite à prier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je suis découragé du monde dans lequel nous vivons. Pardon pour toutes les fois où j'ai l'impression que les gens sont durs, que l'homme court à sa perte, et j'ai raison, et nous avons raison de penser à cela. Mais Seigneur, merci, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Merci parce que aujourd'hui, comme demain, comme dans l'avenir, et nous ne savons pas combien de temps nous resterons sur cette terre, mais tous les jours, nous allons pouvoir dire que tes bontés se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Merci pour l'Évangile qui continue à être proclamé dans le monde. Donne-nous, Seigneur, de prendre toute l'Écriture qui est inspirée par toi et de nous laisser modeler comme l'argile entre les mains du potier pour honorer ton nom et pour te glorifier. Merci et garde mes bien-aimés ici, donne-leur du courage en toi et que jour après jour, nous puissions aller de l'avant pour honorer ton nom. Nous savons que tu reviens, nous attendons ton retour, nous disons « Maranatha, viens Seigneur Jésus » parce qu'un jour, toutes ces choses-là seront finies et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un âge d'or, mais un âge en Jésus-Christ. Alors Seigneur, garde-nous de toute tromperie, garde-nous de toute erreur, pour nous centrer jour après jour sur ta personne. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Amen. Amen.